Covéconomie.
210 millions de dollars américains de la BAD pour appuyer les économies de la sous-région. Objectif, lutter contre la fièvre Ebola dans l'ouest de l'Afrique. L'actualité dans le Katanga, ce sont les plaintes des clients de la SNCC à Luizi, mais aussi dans le territoire de Kabondo-Dianda. À la base, des tonnes de marchandises bloquées depuis plusieurs mois dans les entrepôts de la SNCC. Ce soir, Écho d'économie vous propose un reportage sur le coût de la rentrée scolaire en RDC. Nous serons dans les marchés de la capitale, mais aussi dans différentes écoles, pour savoir combien faut-il dépenser pour qu'un enfant se rende dans une école de la capitale congolaise. Bonsoir et bienvenue à tous. La Banque africaine de développement a alloué 210 millions de dollars américains pour appuyer les économies de la sous-région à lutter contre la fièvre Ebola dans l'ouest de l'Afrique. C'est un appui sous forme de subvention qui sera géré par le Centre de coordination sous-régionale d'Ebola, une structure de l'OMS basée en Guinée-Conakry. Ceci ressort de la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique de ce lundi à la primature, réunion qui examine la conjoncture économique nationale et internationale. Daniel Tambinzoni.
La Troïka stratégique renseigne que les prix des matières premières produites par la RDC se portent assez bien sur les marchés internationaux. La tonne de cuivre se vend depuis le 21 août à 7 025 $, soit un peu plus d'1% de hausse. Le prix de la tonne du cobalt se maintient à 54 839 $. Seul l'once d'or a perdu un peu plus de 2% de sa valeur. Elle se négocie actuellement à 1 277 $ contre 1 309 $ une semaine auparavant. Sur le plan national, le niveau des réserves en devises de la Banque centrale du Congo a baissé et la Troïka le justifie par les dépenses d'investissement consenties en faveur de l'acquisition par le gouvernement de locomotives neuves pour la SNCC. S'agissant des difficultés liées à la bancarisation de la paye des fonctionnaires, tel que présenté par le comité de suivi de cette opération, la Troïka a autorisé le ministre délégué aux Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo de penser à des allègements administratifs et fiscaux au bénéfice des banques commerciales désireuses d'étendre leur réseau dans l'arrière-pays. Ceci pourrait non seulement accélérer la bancarisation, mais aussi mettre à la disposition de ces contrées les services bancaires indispensables au développement.
Vous venez de l'entendre, la BAD a appuyé la lutte contre la fièvre Ebola dans l'ouest de l'Afrique, mais que pouvons-nous savoir de la BAD, François Kadima?
BAD est le sigle des banques africaines de développement. L'accord portant sa création est entré en vigueur le 10 septembre 1964. La BAD comptait à cette époque-là 23 pays membres avec un capital de 250 millions de dollars américains. Elle employait seulement 10 personnes. Aujourd'hui, tous les pays africains font partie de la BAD, soutenus par 26 Européens, Sud et Nord-Américains, ainsi qu'Asiatiques. Vincent James en est l'auteur. Disons que la BAD a pour objectif de promouvoir le développement économique et le progrès social dans les pays africains. Son capital autorisé s'élève aujourd'hui à 103 milliards de dollars américains. Forte de son demi-siècle d'expérience en Afrique, la BAD est à ce jour la première institution de financement du développement sur les continents. La RDC bénéficie des appuis de la BAD depuis 1973. Depuis cette année, la RDC a mobilisé d'importantes ressources financières auprès de la BAD. C'est seulement en juillet 2007 que cette institution a ouvert à Kinshasa son bureau régional pour la RDC, la République du Congo-Brazzaville. Le portefeuille de la BAD au 31 décembre 2012 en RDC comprenait un total de 38 opérations d'un montant total de 92 millions de dollars américains. Ces opérations sont réparties entre autres en 12 opérations nationales, 6 opérations d'assistance technique, 14 opérations du Fonds pour les forêts du bassin du Congo et 6 opérations autres régionales dont 5 projets d'infrastructure et un projet du secteur agricole pour un montant total de près de 180 millions de dollars américains.
Direction le nord Katanga, précisément à Luizi. Nous sommes à 200 km sur la voie ferrée à l'ouest de Kalemi. Les clients de la SNCC se plaignent que leurs marchandises traînent à être évacuées depuis plus de deux mois vers Kalemi. La direction de la Société des chemins de fer, sortie à peine d'une grève qui a paralysé le trafic, promet de se pencher sur ce dossier en toute urgence, comme nous l'explique François-Xavier Mibé.
Nous avons quatre wagons bloqués en gare de Luizi et c'est la rentrée scolaire. Et pourtant, les documents de paiement de la charge se trouvent à Nyunzu. Que la SNCC vienne nous évacuer d'ici.
Ce sont ces réactions qui frisent la colère, qui entourent les conversations des clients de la SNCC en gare de Luizi. Ils affirment être en ordre avec la société de chemin de fer et d'autres clients s'inquiètent même que leurs marchandises composées à majorité par des produits agricoles pour Kalemi puissent se détruire en gare avec des prix qui menacent dans la zone.
La SNCC ne tient
pas à transporter nos marchandises. Elle exige le paiement cash en supplément sans motif et pourtant nous avons des preuves de paiement pour nos marchandises. Et peu avant la grève, le train assurait les transports de marchandises des clients sur base des trafics d'influence.
Le directeur du département de la région des Grands Lacs indique à ce sujet que la SNCC vient à peine de sortir d'une grève de mois et demi ayant perturbé les trafics ferroviaires. Oscar Mutompela espère, avec l'arrivée prochaine des wagons vides en provenance des Kamina et Kindu, résoudre le problème des charges des clients accumulées sur la voie. Un premier train provenant de Kindu est arrivé lundi à Kalemi, chargé d'autres marchandises des clients. Kalemi, François-Xavier Mibé, pour Écho d'économie.
Au Katanga toujours, ces wagons bloqués de la SNCC inquiètent également les commerçants de Kabondo Dianda. Ces derniers citent notamment les sacs de sucre, les sacs de sel, des bidons d'huile végétale chargés depuis avril dernier dans les entrepôts de la compagnie ferroviaire. La FEC Kabondo Dianda, qui plaide donc pour la réhabilitation de la route qui mène à Kamina, estime que celle-ci favorisera l'évacuation des produits agricoles vers les centres urbains. Yvon Banzé, président de la FEC Kabondo Dianda, et joint par Colin Djuma Moussompo.
En tout cas, nous avons des difficultés pour les moyens de transport. Nous excédions nos marchandises, ça fait plus de 4 mois que jusqu'à présent, les wagons traînent encore au niveau de Lubumbashi. Alors, nous préférons maintenant expédier au bord des véhicules. Là, ça arrive un peu facilement, quel que soit les prix. Nous espérons maintenant, en cette période fraîche, nous préférons expédier nos marchandises aux véhicules. Lubumbashi Kabondo, on l'expédie à 10 000 francs, les sacs de 50 kilos, soit du sel ou du sucre. Nous demandons l'entretien de la route, puisque d'ici quelques mois, on aura la saison de pluie. On aura encore des difficultés pour évacuer nos marchandises et nos marchés Kabondo. C'est le prix qui va encore augmenter. Jusqu'à présent, la route n'est pas bonne ici chez nous, dans notre district du Holomami.
En bref, au Katanga d'abord, le bac de la Gécamine qui facilite la traversée sur le fleuve Congo à la hauteur du village Lualaba, dans le territoire de Louboudi, est inopérationnel depuis ce week-end. À la base, un camion chargé des marchandises tombait dans l'eau, empêchant ainsi le mouvement du bac. Conséquence, une trentaine de véhicules et des passagers sont bloqués de part et d'autre de la rive. Les techniciens de la Gécamine dépêchés sur place sont déjà à pied d'œuvre pour rétablir la traversée. Et puis au Nord Kivu, plusieurs femmes veuves des militaires dénoncent le non-paiement de la rente de leurs époux depuis 4 ans. Ce week-end, ces femmes ont tenté de manifester dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol face à leur situation. En réaction, l'administration à la 8e région militaire déclare que la situation des veuves des militaires est très complexe dans le Nord Kivu.
Écho d'économie.
Vous le savez probablement, la rentrée scolaire en RDC est officiellement prévue pour ce 8 septembre 2014. Plusieurs frais à débourser entrent en ligne de compte pour l'effectivité de cette rentrée scolaire. Nadine Foulansimba, qui est avec nous dans ce studio, nous dit exactement ce qu'il faut dépenser pour que son enfant aille à l'école. Bonsoir Nadine.
Bonsoir Mireille. Eh bien, retenez que pour qu'un enfant aille à l'école dans la capitale congolaise, il faut réunir trois choses. L'habillement, les frais scolaires et les fournitures scolaires. Et le coût de ces rubriques dépend de la catégorie de l'école, à savoir les écoles publiques, privées et internationales. Commençons, Mireille, par l'accoutrement. Sur le marché, l'uniforme est donc chemise, culotte, pantalon ou blouse, chemise revient à environ 10 dollars américains. Cependant, ces mêmes tenues accompagnées de l'insigne de l'école se vendent au-delà des 10 dollars dans les écoles publiques. On les retrouve à près des 40 dollars dans les écoles privées et dans certaines écoles internationales, 50 dollars. À ces uniformes, il faudrait ajouter les chaussures, dont les prix varient aujourd'hui de 5 à plus de 100 dollars, selon la qualité bien sûr. Quant aux frais scolaires, précisément les Minerval, l'élève d'une école publique peut payer entre 100 et 400 dollars par an, et cela selon les niveaux primaire, secondaire ou humanité. Par contre, pour celui d'une école privée, il faut débourser entre 500 et plus de 1000 dollars par an. Par ailleurs, les Congolais qui fréquentent les écoles internationales reçoivent le cours moyennant des frais scolaires dont la fourchette varie entre 3000 et 10 000 dollars par an. Enfin, Mireille, pour qu'un enfant aille à l'école, les parents doivent penser aussi aux fournitures scolaires. Pour une école publique, l'achat des cahiers et ouvrages sont à la charge des parents. Un paquet de cahiers de 100 feuilles coûte 2500 francs. Dans les écoles privées, par contre, il faut payer 100 et voire plus de 200 dollars pour avoir des ouvrages, souvent à location, et quelquefois des cahiers qui sont différents de ceux des écoles publiques. Et pour une école internationale, il faut réserver plus de 200 dollars américains. À ces trois rubriques, habillement, frais scolaires et fournitures, il faut ajouter des frais annexes que les écoles demandent tout au long de l'année scolaire. En somme, une rentrée scolaire coûte cher selon plusieurs parents rencontrés. Merci Nadine.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition mise en onde par Héritier Sidiakala et suivie par vous. Merci. We'll be right back.